Chapitre 2. Je sautai à bas de mon lit, croyant que j'avais rêvé. Mais les cris ne cessaient d'emplir la maison. Cris de douleur, pensais-je, mais certainement de rage aussi, et sauvage et discordant à me révolter le cœur. Ce n'était pas une illusion. Un être vivant, un fou ou une bête sauvage, était cruellement torturé. Le souvenir de Felipe avec son écureuil me revint à l'esprit, et je courus à la porte, mais on l'avait fermée à clé de l'extérieur, et j'eus beau la secouer, j'étais irrémédiablement prisonnier. Les cris continuaient toujours. Parfois, ils se réduisaient à un gémissement qui semblait articulé, et alors j'étais assuré qu'ils provenaient d'un être humain. Puis ils éclataient à nouveau et emplissaient la maison de hurlements dignes de l'enfer. Je restais devant la porte à les écouter jusqu'à leur cessation. Ils s'étaient tus depuis longtemps que je prêtais encore l'oreille et continuais de les entendre, mêlés en imagination à la tourmente du vent. Et ce fut avec un malaise mortel et le cœur plein d'une horreur noire que j'allais enfin me remettre au lit. Rien d'étonnant à ce que je ne dormis plus. Mais pourquoi m'avait-on enfermé? Que s'était-il passé? Qui était l'auteur de ces cris indicibles et scandaleux? Un être humain? Mais c'était inconcevable. Une bête? Les cris n'étaient pas tout à fait bestiaux. Et quel animal, si ce n'était un lion ou un tigre, aurait pu ainsi ébranler les épaisses murailles de la Residencia? Mais tandis que je retournais ainsi les éléments du mystère, l'idée me vint que je n'avais pas encore jeté les yeux sur la fille de la maison. Quoi de plus probable que la fille de la Signora et la sœur de Felipe dût elle aussi être aliénée? Ou quoi de plus probable que ces gens ignorants et à demi imbéciles dussent traiter par la violence une parente malade? C'était là une solution. Et toutefois, lorsque je me rappelais les cris, ce que je ne pouvais faire sans un frisson glacé, elle me semblait tout à fait insuffisante. La cruauté même ne pouvait arracher de pareils cris à la folie. Mais j'étais sûr de ceci. Je ne pouvais vivre dans une maison où de telles horreurs étaient seulement concevables et où l'on ne pût sonder l'affaire et au besoin intervenir. Le lendemain arriva. Le vent était complètement tombé et il ne restait rien pour me faire souvenir des événements de la nuit. Felipe s'en vint à mon chevet avec une gaieté visible. Quand je traversais la cour, la Signora se soleillait dans son immobilité coutumière. Et lorsque je franchis la grande porte, je vis toute la face de la nature souriant avec austérité, les cieux d'un bleu froid parsemés de grandes îles de nuages et les flancs des montagnes géographiées en provinces de lumière et d'ombre. Une courte promenade me rendit à moi-même et renouvela en moi la résolution de sonder les mystères. Et lorsque, de mon poste habituel sur le monticule, j'eus vu Felipe se rendre à ses travaux dans le jardin, je retournai aussitôt à la Residencia pour mettre mon dessein à exécution. La Signora semblait faire un somme. Je restai un moment à l'observer, mais elle ne broncha pas. Même si mon projet était indiscret, j'avais peu à craindre d'un tel surveillant. Je la laissai donc et, montant à la galerie, commençai mon exploration de la maison. Toute la matinée, j'allais d'une porte à l'autre et pénétrais dans de vastes pièces désuètes, les unes aux volets hermétiquement clos, les autres ressentant à plein la lumière du jour, toutes vides et inhabitables. C'était une riche demeure sur laquelle le souffle flétrisseur du temps avait répandu sa poussière et sa désillusion. L'araignée s'y balançait, L'obèse tarentule s'enfuyait le long des corniches. Les fourmis avaient établi leur grande route populeuse sur le parquet des salles d'audience. La grosse et mauvaise mouche qui vit de charogne et qui est souvent une messagère de mort avait établi son nid dans leur boiserie vermoulue et son bourdonnement sourd emplissait les chambres. Çà et là, un ou deux tabourets, un canapé, un lit ou un grand fauteuil sculpté restaient à l'abandon comme des flots, des îlots sur les dalles nues, pour témoigner que l'homme avait jadis habité ces lieux et partout sur les murs s'étalaient les portraits des défunts. Je pouvais juger par ces images délabrées quelle grande et noble race avait été celle dont je parcourais la demeure. La plupart des hommes portaient des ordres sur leur poitrine et avaient des maintiens de grands dignitaires. Les femmes étaient toutes richement parées. Le plus grand nombre d'étoiles étaient signées d'artistes fameux. Mais ce n'était pas surtout ces témoignages de grandeur qui subjuguaient ma pensée. Même par contraste avec l'abandon et la décadence actuelle de cette grande maison, c'était plutôt le symbole de vie familiale que je lisais dans cette série de beaux visages et de corps harmonieux. Jamais auparavant je n'avais aussi bien compris le miracle d'une race continue, la création et la recréation, les vacillations, le changement et la transmission des éléments charnels. Qu'un enfant puisse naître de sa mère, qu'il puisse grandir et revêtir, nous ignorons comment, l'humanité, et assurer l'hérédité des traits, tourner la tête à la manière d'un de ses aïeux et tendre la main avec le geste d'un autre, sont des merveilles que leur répétition a émoussées pour nous. Mais dans l'unité originale de physionomie, dans les traits communs et le port commun de toutes ces générations peintes sur les murs de la résidencia, le miracle devenait évident et me regardait en face. Et un miroir ancien, se trouvant opportunément sur mon chemin, je demeurai longtemps à déchiffrer mes traits, suivant de chaque côté le fil de la descendance, et les linéaments qui m'unissaient à ma famille. Enfin, au cours de mes investigations, j'ouvris la porte d'une chambre évidemment habitée. Elle était de proportions considérables et orientée vers le nord, là où les montagnes avaient l'aspect le plus sauvage. Les tisons d'un feu se consumaient et fumaient dans l'âtre auprès duquel on avait tiré une chaise. Mais l'aspect de la chambre était d'une sévérité ascétique. La chaise n'avait pas de coussin, le carreau et les murs étaient nus, et, à part les livres jetés çà et là en désordre, il n'y avait nul instrument de travail ni de plaisir. Voir des livres dans la maison d'une telle famille m'étonna extrêmement. Et ce fut en grande hâte et avec la crainte d'être interrompu à tout moment que j'allais de l'un à l'autre les inspecter rapidement. Il y en avait de toutes sortes, dévotions, histoire et science, mais surtout des vieux et en latin. J'en remarquai un certain nombre qui portaient les traces d'une étude assidue. D'autres avaient été déchirés et rejetés comme dans un accès de pétulante désapprobation. Enfin, tout en rôdant à travers cette chambre vide, sur une table auprès de la fenêtre, j'aperçus quelques feuillets écrits au crayon. Une curiosité irréfléchie m'en fit prendre un. Il portait un brouillon de verre très grossièrement rythmé, dans l'original espagnol et dont voici à peu près le sens. Le plaisir s'approchait avec douleur et honte, la douleur avec une gerbe de lys sans vin. Le plaisir brillait comme l'aimable soleil. Bien-aimé Jésus, quel doux éclat! La douleur, elle, tendit sa main décharnée. Bien-aimé Jésus, vers toi. Aussitôt la honte et la confusion m'envahirent. Et reposant le papier, je battis en retraite hors de l'appartement. Ni Felipe ni sa mère n'auraient pu lire les livres, ni écrire ces vers informes mais sentis. Nul doute, je m'étais introduit d'un pied sacrilège dans la chambre de la fille de la maison. Dieu sait si ma conscience me punit amèrement de mon indiscrétion. L'idée de m'être insinué subrepticement dans l'intimité d'une jeune fille, aussi singulièrement placée, et la crainte qu'elle pût venir à l'apprendre, m'accablèrent comme si j'avais commis un crime. Je me reprochais aussi mes soupçons de la nuit précédente. Je m'étonnais d'avoir jamais pu attribuer ces crises aux dieux à celle que je me figurais à présent comme une sainte, à la mine spectrale, épuisée de macérations, attachée aux pratiques d'une dévotion machinale et cohabitant dans un grand isolement d'âme avec ses incongrus parents. Et comme j'étais penché sur la balustrade de la galerie, à regarder dans la cour les éclatants grenadiers et la dormeuse aux habits clairs, qui s'étirait alors et se pourléchait délicatement les lèvres avec la vraie sensualité de la paresse, je comparais mentalement cette scène avec la chambre glaciale où habitait la fille et sa vue au nord sur les montagnes. Ce même après-midi, j'étais installé sur le monticule lorsque je vis le padre franchir le portail de la residencia. La révélation du caractère de la fille s'était emparée de mon imagination et en effaçait presque les abominations de la nuit précédente. Mais à la vue de ce digne homme, leur souvenir se raviva. Je descendis alors du monticule et faisant un détour parmi les bois, allait me poster au bord du chemin pour l'attendre au passage. Dès qu'il fut en vue, je me avançai vers lui et me présentai comme le pensionnaire de la résidencia. Il avait l'air très sain et honnête, mais il était aisé de suivre sur son visage les sentiments divers avec lesquels il me considérait, moi l'étranger, moi l'hérétique, mais aussi moi, qui avait été blessé et pour la bonne cause. Quant à la famille de la résidencia, il en parla avec beaucoup de réserve, mais néanmoins avec respect. Je fis allusion à ce que je n'avais pas encore vu la jeune fille. Mais il répondit que cela devait être ainsi, en me regardant un peu de travers. À la fin, je rassemblai mon courage pour l'entretenir des cris qui m'avaient réveillé dans la nuit. Il me laissa dire en silence, puis s'arrêta, se détournant à demi, comme pour marquer sans équivoque qu'il me congédiait. « Prisez-vous ? » demanda-t-il, m'effleurant sa tabatière. Et puis, lorsque j'eus refusé, « Oh, je suis un vieillard, » ajouta-t-il, « et vous me permettrez de vous rappeler que vous êtes un hôte. »« Oh, j'ai donc votre autorisation, » répliquai-je avec assez de fermeté, mais rougissant du reproche implicite, « pour laisser les choses suivre leur cours et ne pas intervenir. » Il me répondit « Oui », et avec un salut embarrassé, fit volte-face et me laissa là. Mais ces paroles avaient eu deux résultats, de mettre ma conscience en repos et d'éveiller ma délicatesse. Je fis un grand effort, rejetai une fois de plus les souvenirs de la nuit et repris ma méditation sur ma sainte politesse. Néanmoins, je ne pouvais tout à fait oublier mon incarcération Et le soir, quand Felipe m'apporta mon souper, je l'entrepris discrètement sur ces deux points intéressants. « On ne voit jamais votre sœur, » dis-je d'un air indifférent. « Oh non, » répondit-il, « c'est une bonne fille. » Et sa pensée prit aussitôt une autre direction. « Votre sœur est pieuse, j'imagine, » demandai-je durant la pause qui suivit. « Bon, » s'écria-t-il en joignant les mains avec un élan de terre ferveur, « une sainte, oui, c'est elle qui m'élève. « Vous êtes bien heureux, » dis-je, « car la plupart de nous tous, j'en ai peur, et moi-même entre autres, s'abaisse plutôt. « Seigneur, dit Felipe vivement, je ne voulais pas dire cela. Il ne faut pas tenter votre bon ange. Si l'on s'abaisse, mais où s'arrêtera-t-on ? Vraiment, Felipe, dis-je, je ne soupçonnais pas que vous étiez un prédicateur. Je puis dire un bon. Mais je suppose que c'est l'œuvre de votre sœur. » Il me fit signe que oui, avec des yeux ronds. « Eh bien alors, continuai-je, elle vous a sans doute repris pour votre péché de cruauté. »« 12 fois, s'écria-t-il, car c'était au moyen de cette expression que la bizarre créature désignait la fréquence. Et je lui ai dit que vous l'aviez fait aussi. « Oh, je me rappelle, » ajouta-t-il fièrement. « Elle en fut contente. » « Alors, Felipe, dis-je, quels étaient ces cris que j'ai entendus la nuit dernière ? Car sûrement c'était les cris d'un être qui souffre. »« Le vent ?» répliqua Felipe en regardant le feu. Je pris sa main dans la mienne. Et croyant à une caresse, il sourit avec un plaisir si ingénu que ma résolution en fut presque désarmée. « Le vent » répétai-je. « Oh, je croirais plutôt que c'était cette main-ci, » et je la levai, « qui m'avait d'abord enfermé. » Je vis le garçon trembler, mais il ne répondit mot. « Eh bien, » repris-je, « je suis un étranger et un hôte. Ce n'est pas à moi de me mêler de vos affaires ni d'en juger. Vous n'avez qu'à demander à votre sœur un conseil. Il ne peut manquer d'être excellent. Mais en ce qui me regarde personnellement, je refuse d'être le prisonnier de quiconque. Et je demande cette clé. » Une demi-heure plus tard, ma porte s'ouvrit tout à coup et la clé rebondit sur le carreau. Un jour ou deux après, je rentrais de promenade un peu avant midi. La señora était allongée, tout engourdie, sur le seuil du réduit. Les pigeons reposaient sous les auvents du toit comme des boules de neige. La maison était sous le charme profond de la sieste méridienne. Et seul, un vent de la montagne, doux et intermittent, errait par les galeries, bruissait dans les grenadiers et remuait plaisamment les ombres. Quelque chose dans cette paix m'incitait à suivre son exemple. Je traversai allègrement la cour et montai l'escalier de marbre. Je posai le pied sur la dernière marche, lorsqu'une porte s'ouvrit et je me trouvai face à face avec Olalla. La surprise me transfixa. Sa beauté m'alla au cœur. Elle rayonnait dans l'ombre épaisse de la galerie comme une gemme de couleur. Ses yeux prirent contact avec les miens et s'y attachèrent pour nous lier ensemble comme des mains qui s'enlisent. Et les instants où nous fûmes ainsi face à face, à nous boire l'un l'autre, furent sacramentels comme les épousailles de deux âmes. Je ne sais combien ce temps il se passa avant mon réveil de cette extase profonde. Alors, avec un salut hâtif, je passai dans l'escalier supérieur. Sans faire un mouvement, elle me suivit de ses grands yeux ardents, et comme j'allais disparaître, je crus la voir pâlir et perdre connaissance. Une fois dans ma chambre, j'ouvris la fenêtre et regardai au dehors, sans arriver à comprendre quelle métamorphose venait de se produire en cet austère panorama de montagne, pour qui me semblait aussi resplendir et s'élancer comme un chant au plus haut du ciel. Je l'avais vue, oh là là! Et les échos des précipices répétaient oh là là! Et le muet insondable azur répondait oh là là! La pâle sainte de mes rêves s'était évanouie pour toujours. Et à sa place, je voyais cette jeune fille sur qui Dieu avait répandu les plus riches couleurs et les forces les plus exubérantes de la vie, qui l'avait fait agile comme une biche, svelte comme un roseau, et dans les grands yeux de laquelle il avait allumé les flambeaux de l'âme. La vibration de son être juvénile, véhémente comme celle d'un animal sauvage, avait pénétré en moi. La force d'âme qui émanait de ses regards avait captivé les miens, s'attardait en mon cœur et montait à mes lèvres comme un chant. Elle circulait dans mes veines, elle ne faisait plus qu'un avec moi. Je ne dirai pas que cet enthousiasme s'affaiblit, mais plutôt que mon âme s'enferma dans son extase comme dans un château fort. Et il fut assiégé par des considérations froides et mélancoliques. Impossible de douter que je l'avais aimée à première vue, et sur l'instant, avec une ferveur exaltée que j'ignorais jusque-là. Mais qu'arriverait-il ensuite? Elle était l'enfant d'une maison vouée au malheur, la fille de la Signora, la sœur de Felipe. Sa beauté même en témoignait. Vive comme une flèche, légère comme la rosée, elle avait l'agilité de l'une, et comme l'autre, elle resplendissait avec l'éclat des fleurs sur l'arrière-plan décoloré du monde. Je ne pouvais appeler mon frère ce garçon simple d'esprit, ni ma mère cette inerte et gracieuse créature de chair, dont les yeux stupides et le perpétuel sourire réapparaissaient désormais odieux. Je ne pouvais l'épouser alors. La malheureuse était dépourvue de toute protection. Ses yeux, dans cet unique et long regard qui avait été tout notre entretien, avaient avoué une faiblesse égale à la mienne. Mais dans le secret de mon cœur, je la connaissais pour l'étudiante de la froide chambre du Nord, pour l'auteur de ces vers mélancoliques, et cela eût suffi à désarmer une bête brute. Fuir, oh, je n'en aurais jamais le courage. Mais je fis vœu de me conduire avec la plus vigilante réserve. Comme je me détournais de la fenêtre, mes yeux se posèrent sur le portrait. Telle une bougie après le lever du soleil, il avait perdu toute vie. Il me suivait avec des yeux en peinture. Je le savais ressemblant, et la persistance du type, malgré le déclin de cette face, m'émerveillait. Mais la similitude se résorbait dans la dissemblance. Je me rappelais combien il m'avait paru la vie même, et plutôt une création du génie pictural que de la modeste nature. Et je m'étonnais de cette pensée en exultant au souvenir d'Olalla. La beauté, je l'avais rencontrée auparavant, mais sans en être séduit, et j'avais été souvent attiré vers des femmes qui n'étaient belles que pour moi. Mais dans Olalla, je pouvais trouver réuni tout ce que je désirais et ce que je n'avais pas même osé rêver. Je ne la vis pas le lendemain, et mon cœur se serra et mes yeux la désirèrent comme on désire le matin. Mais le surlendemain, comme je rentrais vers mon heure habituelle, elle était de nouveau dans la galerie, et de nouveau nos regards se rencontrèrent et s'étreignirent. J'aurais voulu parler, j'aurais voulu l'attirer contre moi, mais si fort qu'elle entraîna mon cœur, à l'instar d'un aimant, quelque chose de plus impérieux me retint. Je me contentai de m'incliner en passant, et elle, sans répondre à mon salut, ne fit que me suivre de ses nobles yeux. Je possédais à présent son image par cœur, et il me semblait, en repassant ses traits dans ma mémoire, que je lisais au plus intime de sa pensée. Elle était vêtue avec quelque chose de la coquetterie de sa mère et usait de couleurs voyantes. Sa robe, qu'elle avait sans doute nul doute confectionnée de ses mains, flottait autour d'elle avec une souple grâce. Son corsage, à la mode du pays, était longuement fendu par le milieu, et dans cette échancrure, en dépit de la pauvreté de la maison, une pièce d'or suspendue à un ruban reposait sur son sein brun. C'était là des preuves, s'il en était besoin, de son amour inné de la vie et de sa coquetterie. Aux profondeurs de ses yeux qui s'attachaient sur les miens, je discernais comme des couches successives de passion et de tristesse, les lueurs de la poésie et celles de l'espoir, les ombres du désespoir et des pensées supraterrestres. Son corps était charmant, mais l'hôte, son âme, était plus que digne de cette demeure. Laisserais-je cette fleur sans égale se flétrir, ignorer dans ces farouches montagnes? Irais-je mépriser le don sublime que m'offrait le silence éloquent de ses yeux? Il y avait là une âme emmurée. Ne devais-je pas la tirer de sa prison? Toute considération accessoire était négligeable. Eût-elle été la fille d'Hérode, je jurais qu'elle serait à moi. Et le soir même, je me mis, tout en me reprochant ma duplicité, à séduire le frère. Ah, peut-être le voyais-je d'un œil plus prévenu, ou bien si la pensée de sa sœur me faisait discerner surtout les qualités de cet homme rudimentaire, mais jamais il ne m'avait paru aussi aimable, et sa ressemblance même avec Olalla, tout en m'étant pénible, me le rendait cher. Un troisième jour, un désert d'heures vides, se passa en vain. Je ne voulais perdre aucune occasion. Je rôdais tout l'après-midi dans la cour et, pour me donner une contenance, causais plus qu'à l'ordinaire avec la signora. Dieu sait l'intérêt très tendre et sincère que je mettais désormais à l'étudier et l'indulgence croissante que j'éprouvais aussi bien pour elle que pour Felipe. Mais elle m'étonnait toujours. Alors même que je lui parlais, elle se laissait aller à faire un petit somme, dont elle se réveillait sans embarras, et ce sans gêne m'ébahissait. Ou bien de l'avoir modifié sa pose de façon infinitésimale et se délecter et s'enfoncer dans le plaisir physique de ce mouvement, forçait mon admiration pour une telle profondeur de sensualité passive. Elle vivait dans son corps, et sa conscience, enlisée, dissoute en l'intimité de ses organes, jouissait de cette fusion délicieuse. Enfin, je ne pouvais m'habituer à ses yeux. Chaque fois qu'elle dirigeait sur moi leurs orbes magnifiques et inanes, grands ouverts au jour, mais fermés à tout intérêt humain, chaque fois que j'avais l'occasion d'observer les modifications de ses prunelles qui se dilataient et se rétractaient en un clin d'œil, j'ignore ce qui se passait en moi. Je ne sais quel nom donner aux sentiments confus de regret, de tristesse et de dégoût qui me parcourait les nerfs. J'essayais avec elle une foule de sujets, tous en vain. Et pour finir, je mis la conversation sur sa fille. Mais cela non plus ne la touchait point. Sa fille, dit-elle, était jolie, et ce mot exprimait pour elle, comme pour les enfants, le summum de l'éloge, mais elle fut absolument incapable d'exprimer un jugement plus précis. Lorsque je lui eus dit qu'Olalla me semblait taciturne, elle me bâilla au nez et répondit simplement qu'il n'était guère utile de parler quand on n'avait rien à dire. Les gens parlent beaucoup, beaucoup trop, ajouta-t-elle en me regardant de ses pupilles dilatées. Puis elle bâilla de rechef, en me découvrant une bouche aussi nette qu'un joujou. Cette fois, je compris, et la laissant à sa sieste, monter à ma chambre, m'asseoir devant la fenêtre ouverte, regardant les montagnes sans les voir, perdu en des songes aux radieuses profondeurs, où j'écoutais en imagination résonner une voix que je n'avais pas encore entendue. Je m'éveillais le cinquième jour avec une acuité d'attente qui semblait provoquer le destin. J'étais sûr de moi, le cœur et le pied légers, et résolu à mettre mon amour à l'épreuve immédiate de la réalité. Il n'avait que trop longtemps été le prisonnier du silence, muet, n'existant que par l'œil, comme l'amour des bêtes. Il allait à présent devenir spirituel et se hausser aux joies totales de l'intimité humaine. J'y songeais, avec des espoirs fous comme un explorateur d'Eldorado. En ce pays inconnu et merveilleux de son âme, je ne tremblais plus de m'aventurer. Néanmoins, lorsque je la rencontrai, en effet, la même véhémence de passion s'abattit sur moi et submergea aussitôt mon âme. La parole m'abandonna comme une habitude puérile, et je m'avançai vers elle, comme l'homme pris de vertige s'avance vers le bord d'un précipice. Elle recula un peu à mon approche, mais ses yeux ne quittaient pas les miens et m'attiraient en avant. Lorsque je fus proche d'elle à la toucher, je m'arrêtai. La parole m'était refusée. Un pas de plus et je ne pouvais plus que la serrer muettement sur mon cœur. Ce qu'il y avait encore en moi de raison intacte se révoltait à la pensée d'un tel accueil. Nous restâmes ainsi une seconde, toute notre vie dans nos regards échangeant des salves d'attirance auxquelles nous résistions cependant l'un et l'autre. Puis, par un suprême effort de volonté et conscient néanmoins d'une soudaine amertume désespérée, je me détournai d'elle et m'éloignai dans le même silence. Mais quelle force me dominait qui m'empêcha de parler? Et elle, pourquoi resta-t-elle également silencieuse? Pourquoi se retira-t-elle muettement devant moi, malgré ses yeux fascinés? Était-ce de l'amour? Était-ce une attraction purement physique, sans âme et inéluctable, comme celle qu'exerce l'aimant sur l'acier? Jamais nous ne nous étions parlé, nous étions de parfaits étrangers. Mais une influence, puissante comme la poigne d'un géant, nous balayait silencieusement l'un vers l'autre. L'action sur moi de cette fatalité me fut insupportable. Et cependant, je le savais, elle était digne de mon amour. J'avais vu ses livres, j'avais lu ses vers, et donc, en un sens, pénétré l'âme de ma maîtresse. Mais cette même action, sur elle, me glaça presque d'effroi. De moi, elle ne connaissait rien que les attraits physiques, Elle était attirée vers moi comme les pierres tombent vers la terre. Les lois qui régissent la terre l'entraînaient, malgré elle, dans mes bras. Et la pensée de telles fiançailles m'effraya, et je devins jaloux de moi-même. Ce n'était pas ainsi que je voulais être aimé. Je fus pris ensuite d'une grande pitié pour la jeune fille elle-même. Je songeais à l'âpreté de la mortification qu'elle devait ressentir, elle, la studieuse, la recluse, la sainte monitrice de Felipe, d'avoir pu avouer ainsi une présomptueuse faiblesse envers un homme avec qui elle n'avait pas échangé une parole. Et cette onde de pitié balaya toutes autres considérations. Je n'eus plus qu'un désir, aller la consoler et la rassurer, lui dire que je répondais pleinement à son amour et que son choix, tout aveugle qu'il fût, n'était pas déshonorant. Le lendemain, il fit un temps radieux. Des profondeurs superposées d'azur dominaient les montagnes. Le soleil resplendissait, et le vent dans les arbres avec les multiples torrents des ravins emplissait l'air d'une musique exquise et obsédante. Mais j'étais abattu de tristesse. Mon cœur sanglotait après la venue d'Olalla, comme un enfant pleure de loin de sa mère. Je m'assis sur un rocher au bord des falaises basses qui limitent le plateau vers le nord. Ma vue plongeait de là dans la gorge boisée d'un torrent que nul pas ne foulait jamais. Dans mes dispositions, je trouvais une mélancolie nouvelle à posséder ces lieux sans partage. Il y manquait, oh là là. Je songeais aux délices enchanteurs d'une existence vécue tout entière avec elle dans cet air vif, parmi ces paysages farouches et bien-aimés. D'abord avec tristesse, ensuite avec une telle véhémence de joie que je me parus croître en force et en stature comme Samson. Et alors, tout d'un coup, j'aperçus Olalla. Elle sortait d'un bois de chêne-liège et s'en venait droit vers moi. Je l'attendis. Sa démarche décelait une vivacité, un feu, une légèreté admirable. Et néanmoins, elle s'avançait avec une paisible lenteur. Elle s'appliquait à cette lenteur de toute son énergie. Sinon, je le sentais, elle aurait couru, elle aurait volé vers moi. Mais elle ne cessait de tenir ses yeux abaissés vers le sol. Et quand elle fut arrivée tout près de moi, ce fut sans un regard qu'elle m'adressa la parole. Au premier son de sa voix, je tressaillis. C'était là que je l'attendais. C'était la dernière épreuve de mon amour. Oh joie ! Son élocution était nette et claire, et non pas bégayante et frustre comme celle de sa famille. Et sa voix même, quoique plus grave qu'il n'est habituel aux femmes, était à la fois juvénile et féminine. Elle parlait sur un ton vibrant. Les cordes d'or de son contralto se mêlaient de rossité légère, comme les cheveux roux s'entremêlaient aux bronzes sur sa tête. Et non seulement cette voix m'allait droit au cœur, c'était d'elle qu'elle parlait. Mais ce qu'elle me dit me replongea immédiatement dans le désespoir. « Vous allez partir, me dit-elle, aujourd'hui. » Son exemple rompit les liens de ma parole. Je me sentis comme soulagé d'un poids ou comme si un maléfice avait été conjuré. Bon, je ne sais en quels termes je lui répondis, mais debout devant elle au bord des falaises, je déversais toute l'ardeur de mon amour. Je lui dis que je vivais de sa pensée, que je dormais uniquement pour rêver de sa beauté, que j'aurais volontiers renié mon pays, ma langue et mes amis pour vivre toujours à ses côtés. Puis, d'un effort soudain me ressaisissant, je changeai de ton. Je la rassurais, je la réconfortais. Je lui dis que j'avais deviné en elle une âme pieuse et héroïque, avec qui j'étais digne de sympathiser et que j'aspirais à pénétrer et à éclairer. La nature, lui dis-je, est la voix de Dieu. On ne lui désobéit qu'à ses dépens. Si nous étions ainsi attirés muettement l'un vers l'autre, oui, certes, ce prodige d'amour impliquait en nos âmes une conformité providentielle. Nous étions nécessairement faits l'un pour l'autre. Nous serions follement rebelles contre Dieu, de ne pas subir cet instinct, de ne pas obéir à cet instinct. Elle secoua la tête. Vous allez partir aujourd'hui, répéta-t-elle. Puis avec un geste et d'un ton bref et déchirant, oh non, pas aujourd'hui, mais demain. Mais à ce signe de faiblesse, la force me revint d'un coup. Je lui tendis les bras et l'appelai par son nom. Et elle s'élança vers moi et m'enlaça. Les montagnes vacillèrent autour de nous. La terre trembla. Une commotion soudaine me traversa et je restai aveuglé et étourdi. L'instant d'après, elle m'avait brusquement repoussé de ses bras et s'enfuyait avec la rapidité d'un cerf parmi les chênes lièges. Je restai là, poussant des appels vers les montagnes, puis je regagnai la résidencia. J'étais au nu. Elle m'avait renvoyé, et pourtant je n'avais eu qu'à l'appeler par son nom pour qu'elle vînt à moi. Ce n'était là que faiblesse féminine, dont même elle, la plus singulière de son sexe, n'était pas exempte. M'en aller, oh non, oh là là! Oh, pas moi, oh là là, mon oh là là! Un oiseau chantait tout proche, et dans cette saison les oiseaux étaient rares. J'y vis un heureux présage. Et une fois de plus, toute la face du monde, depuis les massives et stables montagnes, jusqu'à la plus légère feuille et aux plus minuscules êtres ailés traversant l'ombre des bois, se mit à vibrer devant moi, vivante, et à revêtir un aspect de joie formidable. Le soleil dardait sur les pentes avec l'énergie du marteau sur l'enclume, et les pentes en tremblaient. La terre, sous cette véhémence solaire, émettait des senteurs entêtantes. Les bois fumaient dans la flambaison. Je sentais le frémissement d'un travail voluptueux parcourir la terre. Quelque chose d'élémentaire, quelque chose de rude, de violent, de sauvage, dans l'amour qui chantait en mon cœur, me livrait la clé des secrets de la nature, et les pierres même qui roulaient sous mes pieds me semblaient vivantes et familières. Oh là là, son contact m'avait avivé et renouvelé, rendu au degré primitif de l'accord avec la rude terre, un épanouissement d'âme que les hommes apprennent à oublier dans leur société policée. L'amour brûlait en moi comme une fureur. La tendresse s'élargissait farouchement. Je la haïssais, je l'adorais, j'avais pitié d'elle, je la révérais avec extase. Je voyais en elle comme le chaînon qui me reliait d'une part aux choses inanimées, et de l'autre à notre Dieu pur et impitoyable, un être animal et divin, possédant à la fois l'innocence et les forces déchaînées de la nature. Ainsi, délirant, j'arrivai dans la cour de la résidencia et la vue de la mer me frappa comme une révélation. Elle était étendue, livrée à toute son indolence satisfaite, clignant des yeux sous l'ardeur du soleil, consumée de jouissances passives, comme une créature à part devant qui ma ferveur tomba, frappée de honte. Je m'arrêtai une minute, et affermissant autant que possible ma voix tremblante, je lui adressai quelques mots. Elle me regarda du fond de son insondable bienveillance. Elle me répliqua d'une voix vague, sortant du royaume de paix où elle sommeillait. Je conçus pour la première fois un certain respect envers une créature si uniment innocente et heureuse, et je m'éloignai tout étonné de sentir qu'elle pût me troubler tellement. Il y avait sur ma table une feuille de même papier jaune que j'avais vue dans la chambre du Nord. Elle était écrite au crayon, de la même main, celle d'Olalla. Je la pris avec le soudain pressentiment d'un malheur et lus « Si vous avez quelque amitié pour Olalla, si vous avez quelque sentiment chevaleresque envers un être au cœur torturé, allez-vous-en d'ici aujourd'hui même. Par pitié pour votre honneur, pour l'amour de celui qui est mort en croix, je vous supplie de partir. » Je considérai un moment ces lignes comme frappées de stupeur, puis je m'éveillai peu à peu à la lassitude et à l'horreur de la vie. Le soleil s'obscurcit au dehors sur les montagnes, et je me pris à trembler comme un homme en proie à la terreur. Cette lacune ainsi soudainement béante dans ma vie me démoralisa comme un vide physique. Ce n'était pas mon cœur, ce n'était pas mon bonheur, c'était ma vie même dont il s'agissait. Je ne pouvais pas la perdre. Je me le dis et me le répétais. Et alors, comme en songe, je m'approchai de la fenêtre pour ouvrir la croisée, avancer la main et la passer au travers du carreau. Le sang jaillit de mon poignet. Et recouvrant aussitôt la tranquille possession de moi-même, j'appuyai mon pouce sur la minuscule fontaine jaillissante et réfléchis à ce que je devais faire. Dans cette chambre vide, il n'y avait rien qui pût me servir. Et néanmoins, je sentais que j'avais besoin d'assistance. Il me vint l'espoir qu'Olalla elle-même pourrait me secourir, et je descendis l'escalier, tenant toujours mon pouce sur la blessure. Il n'y avait pas trace d'Olalla ni de Felipe, et je me dirigeais vers le réduit où la signora s'était maintenant étendue tout à fait et sommeillait tout contre le feu, car nul degré de chaleur ne lui semblait trop violent. « Pardonnez-moi, lui dis-je, de vous déranger, mais j'ai besoin de votre aide. » Elle leva sur moi des yeux endormis et me demanda de quoi il s'agissait. Tandis qu'elle parlait, je crus l'avoir tiré son souffle en élargissant les narines, et elle me parut revenir soudain à la vie. « Je me suis coupé, dis-je assez fort, voyez. » Je lui tendis mes deux mains d'où le sang coulait et dégouttait. Ses grands yeux s'ouvrirent au large, ses pupilles se contractèrent jusqu'à n'être plus que des points, un voile parut tomber de son visage qui se découvrit plein d'une expression vive mais impénétrable. Et comme je m'étonnais un peu de son trouble, elle se leva, prit ma main sur laquelle elle se pencha, et l'instant d'après, elle avait porté ma main à sa bouche et m'avait mordu jusqu'à l'os. La douleur, le soudain jaillissement du sang et la prodigieuse horreur de cette action me frappèrent à la fois, je la repoussai. Alors elle se jeta sur moi à plusieurs reprises avec des cris bestiaux, des cris que je reconnus, ces cris qui m'avaient réveillé la nuit du grand vent. Sa force était décuplée par la folie. La mienne déclinait rapidement avec la perte du sang. J'étais en outre étourdi par la répugnante horreur de l'agression, et j'étais déjà presque acculé au mur Lorsque Talma se précipita entre nous, s'y vit de Felipe qui d'un bond cloua sa mère sur le sol. Une faiblesse léthargique s'empara de moi. Je voyais, j'entendais, je sentais, mais j'étais incapable de faire un mouvement. J'entendais les deux lutteurs se rouler çà et là sur le sol. Les rugissements de ce couguar femelle retendirent jusqu'au ciel alors qu'elle s'efforçait de m'atteindre. Je sentis Olala m'enlacer de ses bras, ses cheveux se répandre sur mon visage. Avec la force d'un homme, elle me souleva et, moitié me traînant, moitié me portant par l'escalier jusqu'à ma chambre, elle me déposa sur mon lit. Alors, je la vis accourir à la porte, la fermer à clé, et rester une minute à écouter les cris sauvages qui faisaient retentir la résidencia. Puis, vive et légère comme la pensée, elle fut de nouveau à mon côté, bandant ma main, la tenant sur son sein, gémissant et pleurant dessus avec des plaintes de colombe. Ce n'étaient pas des mots qui lui venaient, c'étaient des sons plus beaux que la parole, infiniment touchants, infiniment tendres. Mais cependant, une pensée me frappa au cœur, une pensée me blessa comme un glaive, comme un ver dans la fleur, et profana la sainteté de mon amour. Oui, ses sens étaient beaux et inspirés par l'humaine tendresse, mais leur beauté était-elle humaine ? Je restais couché tout le jour. Longtemps les cris de cette innommable femelle, tandis qu'elle luttait avec son louveteau idiot, résonnèrent par la maison et me transportèrent de chagrin, désespéré et de dégoût. C'étaient les cris de mort de mon amour. Mon amour était assassiné. Non seulement il était mort, mais il se tournait en offense contre moi. Et toutefois, j'avais beau penser et souffrir, il se gonflait encore en moi comme une tempête de délices, et mon cœur se fondait à ses regards et à son contact. Cette horreur qui avait surgi, ce doute qui planait sur Olala, ce courant de sauvagerie, de bestialité, qui non seulement traversait toute sa famille, mais pénétrait jusqu'au fondement l'histoire même de notre amour, bien que tout cela m'épouvantait, me choqua, me dégoûta, rien de tout cela n'avait cependant le pouvoir de briser les nœuds de ma passion. Lorsque les cris eurent cessé, un grattement à la porte m'apprit que Felipe était là, dehors. Et Olala s'en fut lui parler, je ne sais pas de quoi. À part cet instant, elle ne quitta pas mon chevet, tantôt agenouillée et priant avec ferveur, tantôt assise et ses yeux sur les miens. Ainsi donc, pendant ces 6 heures, j'absorbais sa beauté et lus mutuellement son histoire sur son visage. Je vis la pièce d'or ondulée sur sa poitrine. Je vis s'assomblir et s'éclaircir ses yeux qui cependant ne me parlaient d'autre langage que celui d'une tendresse infinie. Je vis son visage parfait et à travers la robe les lignes impeccables de son corps. La nuit vint enfin, et dans l'obscurité croissante de la chambre, ses formes s'évanouirent lentement. Mais le doux contact de sa main ne cessa de s'attacher à la mienne et de me parler. Rester ainsi dans une faiblesse mortelle, à boire les traits de la bien-aimée, suffirait à réveiller l'amour après n'importe quelle heure de désillusion. Je me raisonnais, je fermais les yeux sur les abominations et je retrouvais toute ma hardiesse pour accepter le pire. Qu'importait si cet impérieux sentiment survivrait, si ses yeux rayonnaient toujours attachés sur moi, Si maintenant, comme naguère, chaque fibre de mon triste corps aspirait vers elle. Tard dans la nuit, un peu de force me revint et je parlais. Oh là là, rien n'importe, je ne demande rien. Je suis heureux, je vous aime. Elle s'agenouilla de nouveau pour prier, et je respectais pieusement sa dévotion. La lune éclairait un côté de chacune des trois fenêtres et mettait dans la chambre une lueur confuse qui me laissait apercevoir indistinctement la jeune fille. En se relevant, elle fit un signe de la croix. « C'est à moi de parler, dit-elle, et à vous d'écouter. Je sais, moi, et vous ne pouvez faire que des suppositions. J'ai prié, oh, comme j'ai prié pour que vous quittiez ces lieux. Je vous l'ai demandé, et je sais que vous m'auriez accordé même cela. Ou du moins, oh, laissez-moi le croire ainsi. Mais je vous aime, dis-je. Et pourtant, vous avez vécu dans le monde, dit-elle après une pause. Vous êtes un homme sérieux, et je ne suis que l'enfant. Pardonnez-moi si j'ai l'air de vous prêcher, moi qui suis aussi ignorante que les arbres des montagnes. Mais ceux qui apprennent beaucoup ne font qu'effleurer la surface de la connaissance. Ils saisissent les lois. Ils conçoivent la grandeur du plan. L'horreur de la réalité s'efface de leur mémoire. C'est, je pense, à nous qui restons au foyer avec le malheur, de nous en souvenir, de prévoir et de compatir. Allez, je vous en prie, allez-vous-en et ne m'oubliez pas. Ainsi je vivrai au plus cher de notre mémoire, d'une vie aussi mienne que celle du corps qui m'appartient. Je vous aime, dis-je encore une fois. Et avançant ma main débile, je pris la sienne que je portais à mes lèvres pour la baiser. Elle ne me résista point, mais tressaillit un peu et me regarda avec un froncement de sourcils moins rigoureux que triste et déçu. Puis elle sembla faire appel à sa volonté. Elle attira ma main à elle en se penchant un peu et la posa sur son cœur. « Tenez, dit-elle, sentez la palpitation de ma vie. Elle n'existe que pour vous. Elle est à vous. Est-elle encore à moi? Elle n'est plus à moi que pour vous l'offrir. Comme je pourrais prendre cette pièce à mon cou, comme je pourrais casser un rameau d'un arbre et vous le donner. Mais non, elle n'est même pas à moi. Je réside où je crois résister, résider, si j'existe du tout. Résider quelque part ailleurs, prisonnière, impuissante, emportée et assourdie par un tourbillon que je désavoue. Ce viscère, tel celui qui bat sous les flancs des bêtes, reconnaît en vous son maître. Il vous aime. Mais mon âme, est-ce qu'elle vous aime? Je ne crois pas, je ne sais pas, je redoute de l'interroger. Pourtant, lorsque vous me parliez, vos discours venaient de l'âme. C'est mon âme que vous désirez, c'est par mon âme seulement que vous voulez me prendre. Oh là là, dis-je, l'âme et le corps ne font qu'un, et surtout en amour. Ce que veut le corps, l'âme aussi le désire. Où le corps s'attache, s'attache l'âme. Corps pour corps, âme pour âme, tous deux vont ensemble où Dieu les appelle. Et la portion la plus simple, la plus basse, si l'on peut qualifier quelque chose de bas, forme simplement le piédestal et comme les fondations de la plus haute. Avez-vous, dit-elle, vu les portraits dans la maison de mes pères? Avez-vous regardé ma mère et Felipe? Avez-vous jeté les yeux sur ce tableau suspendu auprès de votre lit? celle qu'il représente est morte depuis des générations, et elle fit le mal de son vivant. Mais regardez-y encore, c'est ma main jusqu'au dernier trait, ce sont mes yeux et mes cheveux. Qu'est-ce qui est mien alors et que suis-je? S'il n'est pas une ligne de mon pauvre corps que vous aimez, pour l'amour duquel vous rêvez éperdument que vous m'aimez, s'il n'est pas un des gestes que je puis ébaucher, pas une intonation de ma voix, ni le moindre regard de mes yeux, non pas même à présent que je parle à celui que j'aime, qui n'est appartenu à d'autres. D'autres morts depuis des âges ont regardé d'autres hommes avec mes yeux. D'autres hommes ont oui les aveux de cette voix qui résonne ici à vos oreilles. Les mains des morts sont dans mon sein. Elles me meuvent, elles m'entraînent, elles me guident. Je suis un fantoche à leur commandement. Et je ne fais que ressusciter des traits et des appâts qui ont depuis longtemps cessé de nuire dans le calme du tombeau. Est-ce moi que vous aimez, ô mon ami, ou la race qui m'a faite? Est-ce la femme qui m'est consciente ni responsable de la moindre partie d'elle-même? Ou bien cet influx dont elle est une onde transitoire, cet arbre dont elle est le fruit passager? La race existe, elle est vieille et toujours jeune. Elle emporte dans son sein sa destinée éternelle. Sur elle, comme sur les flots de la mer, l'individu que leurre une apparence de liberté succède à l'individu, mais l'individu n'est rien. Nous parlons de l'âme, mais l'âme est dans la race. Ah, vous allez à l'encontre de la loi commune, dis-je. Vous vous rebellez contre la voix de Dieu, qu'il a faite si dominatrice pour convaincre et si impérieuse pour commander. Mais écoutez-la, écoutez comme elle parle en nous. Votre main s'attache à la mienne, votre cœur bondit à mon approche. Les éléments inconnus dont nous sommes constitués s'éveillent et se précipitent l'un vers l'autre sur un simple regard. L'argile de la terre se rappelle sa vie autonome et elle aspire à nous joindre. Nous sommes entraînés par la même force qui fait graviter l'une vers l'autre les étoiles de l'espace, par la force qui fait monter et descendre la marée, par des puissances plus antiques et plus vastes que nous-mêmes. Hélas, reprit-elle, que vous dirais-je? Mes pères, il y a 800 ans, possédaient toute la province. Ils étaient sages, grands, astucieux et cruels. Mes pères étaient en Espagne une race d'élite. Leur Penon marchait les premiers à la guerre. Le roi les appelait ses cousins. Les gens du peuple, devant la potence apprêtée pour eux, ou bien retrouvant leur logis en cendres, blasphémaient leur nom. Puis vint une transformation. L'homme s'est élevé. S'il descend des bêtes, il peut retourner à leur niveau. Un souffle de lassitude passa sur ma lignée, relâchant ses fibres. La décadence commença pour elle. Les esprits s'obnubilèrent, les passions s'éveillèrent par accès, têtues et insensées, comme le vent dans les gorges des montagnes. La beauté fut encore transmise, mais non plus la volonté directrice ni le sentiment humain. Le gerbe se revêtait de chair, la chair couvrait les os, mais c'était des os et de la chair d'animaux, et leur âme était pareille à celle des insectes. Je vous parle à ma façon, mais vous-même avez-vous vu comment la roue de la fortune a régressé pour ma race condamnée? Je me trouve, pour ainsi dire, sur un petit relèvement de terrain de ce déval sans espoir, et je vois en avant et en arrière à la fois ce que nous avons perdu et jusqu'il nous faut encore aller et descendre. Or, dois-je? Moi qui habite à part dans cette maison des morts, mon corps dont je sais les voix, dois-je retirer le maléfice? Évoquerai-je un autre esprit, comme le mien reluctant dans cette habitation maudite et battue de la tempête, où je souffre à présent? Transmettrai-je ce néfaste réceptacle d'humanité pour le charger d'une vie nouvelle comme d'un nouveau poison, et le lancer tel un flambeau à la face de la postérité? Mais j'en ai formé le vœu, ma race disparaîtra de la terre. À cette heure, mon frère s'apprête, bientôt son pas montera l'escalier, et vous vous en irez avec lui hors de ma vue à jamais. Pensez à moi quelquefois, comme à celle qui a pris dans l'amertume la leçon de la vie, mais qui l'écouta bravement, comme à celle qui vous aime en effet, mais qui se haïssait si profondément que son amour lui était haïssable, et comme à celle qui vous renvoya, et aurait cependant aspiré à vous garder toujours, et qui n'eut jamais de plus cher espoir que de vous oublier, ni de plus grande crainte que d'être oubliée. Tout en parlant, elle s'était dirigée vers la porte. Sa voix harmonieuse résonnait de plus en plus lointaine. Et sur ces derniers mots, elle disparut, et je restai seul dans la chambre éclairée par la lune. Qu'aurais-je fait si je n'avais été retenu par mon extrême faiblesse? Je ne sais. Mais je demeurai accablé sous un énorme et vide désespoir. Peu après, la clarté rougeâtre d'une lanterne apparut à ma porte, et Felipe entra. Sans un mot, il me chargea sur ses épaules, puis il me descendit jusqu'au portail où attendait la carriole. Au clair de lune, les montagnes se relevaient en vigueur, comme si elles eussent été de carton-pâte. Sur le plateau, faiblement éclairé, entre les arbres bas qui s'entrechoquaient et bruissaient dans le vent, le vaste cube noir de la Residencia se dressait massivement, percé par la vague lueur de trois jeunes seules fenêtres sur la face nord au-dessus de la porte. C'étaient les fenêtres d'Olalla. Et lorsque la carriole démarra, je gardai mes yeux fixés sur elle jusqu'à ce que la route s'enfonçât dans une vallée et qu'elle fût perdue à mes yeux pour toujours. Felipe marchait en silence à côté du brancard, mais de temps en temps, il excitait la mule et se retournait pour me regarder. Enfin, il s'approcha de moi tout à fait et posa sa main sur ma tête. Il y avait une telle douceur dans ce geste et une telle ingénuité animale que des larmes jaillirent de moi comme l'éclatement d'une artère. « Felipe, dis-je, emmenez-moi où l'on ne me posera pas de questions. » Sans un mot, il fit faire volte-face à sa mule, remonta une partie du chemin par où nous étions venus, et s'engageant dans un autre sentier, me transporta au village qui était, comme on dit en Écosse, la paroisse de ce district montagnard à la population clairsemée. Il ne me reste que des souvenirs confus du jour tombant sur la plaine, de la charrette s'arrêtant, des bras qui mêlèrent à descendre, de la chambre nue où je fus porté et de l'évanouissement qui s'abattit sur moi comme le sommeil. Le lendemain et les autres jours, le vieux prêtre fut souvent à mon côté avec sa tabatière et son livre de prière, et après quelque temps, lorsque je commençais à recouvrer mes forces, il me dit que j'étais en bonne voie de guérison et que je devais aussitôt que possible songer à mon départ. Et puis, sans invoquer de raison, il prit une prise en me regardant de côté. Je n'affectais pas l'ignorance. Il devait avoir vu Olalla. « Monsieur, lui dis-je, vous savez que je ne vous questionne pas au hasard. Qu'en est-il de la famille ?» Il me répondit qu'elle était très malheureuse, que la race semblait sur le déclin et qu'ils étaient très pauvres et avaient été très négligés. Mais pas elle, dis-je. Grâce sans doute à vous, elle est instruite et sage, plus qu'il n'est habituel aux femmes. Oui, dit-il, la señorita est instruite, mais la famille a été négligée. La mère, demandai-je. Oh oui, la mère aussi, dit le padre, en prenant une prise. Mais Felipe est un garçon bien intentionné. La mère est bizarre, fis-je. Oui, très bizarre. Ah, je pense, monsieur, que nous battons le buisson. Vous devez savoir de mes affaires plus que vous me le montrez. Vous devez connaître mon désir d'être mis au courant sur plusieurs points. Vous ne voulez pas être franc avec moi? Mon fils, dit le vieillard, je serai très franc avec vous sur les matières de ma compétence. Mais sur celles dont je ne sais rien, il ne faut pas grande discrétion pour me taire. Je ne feindrai pas avec vous. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Et ce que je puis affirmer est que vous êtes entre les mains de Dieu et que ses voies ne sont pas les nôtres. J'en ai même conféré avec mes supérieurs ecclésiastiques, mais eux aussi sont restés muets. C'est un vrai mystère. Mais est-elle folle? Demandai-je. Mais je vous répondrai selon ma pensée. Elle ne l'est pas, ou du moins elle ne l'était pas. Durant sa jeunesse, oh, Dieu me pardonne, je crois d'avoir négligé cette brebis sauvage, elle était sûrement saine d'esprit. Mais toutefois, bien qu'elle n'en fût pas encore au point actuel, ces mêmes tendances étaient déjà visibles. Il en avait été de même avant elle, chez son père. Oui, et avant lui, ce qui me porta sans doute à en juger trop légèrement. Mais ces prédispositions se développent non seulement chez l'individu, mais dans la race. Mais lorsqu'elle était jeune, demandai-je, et la voix me manqua un instant, il me fallut faire un grand effort pour ajouter, était-elle comme Olalia? Dieu me pardonne, s'écria le padre. À Dieu ne plaise que personne pense aussi inconsciemment de ma pénitente préférée. Non, non, la señorita, sinon par sa beauté que je souhaite très sincèrement voir moindre, n'a pas un seul trait de ressemblance avec ce que sa mère était au ménage. Il me serait pénible que vous le croyiez, et cependant, Dieu sait s'il ne vaudrait pas mieux que vous le croyiez. Là-dessus, je me redressai dans mon lit et ouvris mon cœur au vieillard, lui disant mon amour et la décision de Allah, avouant mes répugnances, mes imaginations passagères, mais lui disant que celle-ci avait pris fin. Et j'en appelai à son jugement avec mieux qu'une soumission de pure forme. Il m'écouta très patiemment et sans surprise. Lorsque j'eus achevé, il resta un moment silencieux, puis il commença. L'Église, bon, et aussitôt s'interrompit pour s'excuser. « Ah, j'oubliais, mon enfant, que vous n'êtes pas chrétien. Et d'ailleurs, sur un point tellement insolite, on ne peut dire que l'Église même est décidée. Mais voulez-vous mon opinion? La señorita est en la matière le meilleur juge. À votre place, je m'en remettrai à son avis. » Là-dessus, il se retira et fut dorénavant moins assidu auprès de moi. En effet, lorsque je commençai à me lever, il évita ostensiblement ma société et parut me fuir, non par antipathie, mais comme s'il eût fui l'énigme du sphinx. Les villageoises aussi m'évitaient. Il mettait de la mauvaise volonté à me servir de guide dans la montagne. Je croyais voir qu'il me regardait de travers, et j'étais certain que les plus superstitieux se signaient à mon approche. D'abord, j'attribuais le fait à mes croyances hérétiques, mais il m'apparut enfin que si j'étais ainsi redouté, C'était pour avoir habité à la Residencia. Nous méprisons les lubies d'une pareille rusticité, et néanmoins, je sentais comme une ombre glacée s'abattre sur mon amour et l'opprimer. Elle ne le diminuait pas, mais je le puis nier qu'elle restreignait ma ferveur. Quelques milles à l'est du village, il y avait dans la Sierra une brèche d'où l'œil plongeait directement sur la Residencia. Je pris l'habitude quotidienne de m'y rendre. Un bois couronnait le sommet, et juste à l'endroit où le sentier en débouchait, il était surplombé par une avancée de rochers qui portait à son tour un crucifix de grandeur nature et d'une exécution plus réaliste que de coutume. Ce fut là mon poste d'observation. De là, un jour après l'autre, je promenais mes regards sur le plateau, sur la grande vieille maison, et je voyais Felipe, moins gros qu'une mouche, aller de ça, de là, dans le jardin. Parfois, des brumes interceptaient la vue, qui se dissipaient ensuite, chassées par les vents de la montagne. Parfois, la plaine s'endormait au-dessous de moi, sous un soleil radieux, ou bien elle était cachée par un rideau de pluie. Cette perspective lointaine, ces visions fugitives des lieux où mon existence avait subi une métamorphose si profonde, convenaient à mon humeur inquiète. Je passais là des jours entiers à débattre en moi-même les éléments divers de notre situation, tantôt cédant aux suggestions de l'amour, tantôt écoutant la voix de la sagesse, et à la fin demeurant irrésolu entre les deux. Un jour, comme j'étais assis sur mon rocher, arriva par le chemin un paysan maigre, drapé dans une cape. C'était un étranger qui, évidemment, ne me connaissait pas, même de réputation. Car au lieu de passer au large, il s'approcha, vint s'asseoir auprès de moi, et nous entrâmes en conversation. Entre autres choses, il me dit qu'il avait été muletier, et qu'il avait, dans son jeune temps, beaucoup fréquenté ces montagnes. Plus tard, ayant suivi l'armée avec ses mules, il avait réalisé quelques biens et il vivait maintenant retiré dans sa famille. « Connaissez-vous cette maison ?» demandai-je à la fin en désignant la Residencia, car j'étais vite las de toute conversation qui m'empêchait de songer à Otala. Il me regarda d'un œil sombre et se signa. « Trop bien, dit-il, c'est là qu'un de mes camarades se vendit à Satan. Que la Vierge nous préserve de la tentation. Oh, il a payé pour son crime et brûle à présent au plus rouge tréfonds de l'enfer. » La crainte s'empara de moi, et je ne trouvais rien à répondre. Et l'homme reprit, comme se parlant à lui-même, « Oui, oui, oh, oui, je la connais. J'ai passé son seuil. La neige couvrait le sentier, le vent la chassait. Je le pris par le bras, Seigneur, et l'entraînai vers la grande porte. Je le conjurai au nom de tout ce qu'il aimait et vénérait de partir avec moi. Je m'agenouillai devant lui dans la neige, et je vis que mes supplications l'émouvaient. Mais juste à ce moment, elle sortit de la galerie en l'appelant par son nom. Il se détourna, et elle restait là, une lampe à la main, l'attirant vers elle par son sourire. À haute voix, j'appelai Dieu à mon aide et enlaçai étroitement mon ami, mais il me repoussa et me laissa seul. Son choix était fait. Que Dieu nous soit en aide. J'aurais voulu prier pour lui, mais à quoi bon? Il y a des péchés que le pape même ne peut pas remettre. Et votre ami, demandai-je, qu'en advint-il? Oh bien, Dieu le sait, dit le muletier. Si tout ce que l'on dit est vrai, ou sa fin fut comme son péché, à faire dresser les cheveux. Vous voulez dire qu'il fut tué? Oui, certes, il fut tué. Mais comment? Ah, oui, comment? Ah, ce sont là des choses dont c'est péché de parler. Mais les gens de cette maison, commençais-je. Mais il m'interrompit avec un éclat sauvage. Les gens? S'écria-t-il. Quels gens? Il n'y a ni homme ni femme dans cette maison de Satan. Comment? Vous avez vécu si longtemps ici sans jamais avoir su? Et alors, il approcha sa bouche de mon oreille et chuchota, comme si ses paroles risquaient d'être entendues des oiseaux de la montagne et de les frapper d'horreur. Ce qu'il me conta était faux et pas même original. Ce n'était en effet qu'une version nouvelle, accommodée par l'ignorance villageoise et la superstition, d'histoire presque aussi vieille que le monde. Ce fut plutôt son application qui me fit pâlir. Jadis, dit-il, l'Église aurait brûlé son nid de basilic, mais le bras de l'Église était à présent trop court. Miguel, son ami, avait été impuni chez les hommes et laissé au jugement redoutable d'un dieu offensé. Mais cette injustice ne durerait pas toujours. Le père se faisait vieux, le père lui-même était ensorcelé. Mais les yeux de ses ouailles étaient maintenant dessillés au danger. Et quelques jours, oui, avant peu, la fumée de cette maison s'élèverait vers le ciel. Il me laissa béant d'horreur et de crainte. Je ne savais de quel côté me tourner. Devais-je d'abord avertir le père ou porter mes mauvaises nouvelles tout droit aux habitants menacés de la résidencia? Le sort allait décider pour moi, car pendant que j'hésitais toujours, j'aperçus dans le sentier une silhouette voilée de femme qui s'approchait de moi. Nul voile ne pouvait tromper ma perspicacité. Chaque ligne et chaque mouvement me fit reconnaître « oh là là ». Et restant dissimulé derrière un angle du rocher, je la laissai atteindre le sommet. Puis je m'avançai. Elle me vit, s'arrêta sans rien dire, et moi aussi je restai silencieux, et nous continuâmes à nous contempler l'un l'autre avec une tristesse passionnée. « Oh, je vous croyais parti, dit-elle enfin. C'est la seule chose que vous puissiez faire pour moi, partir. C'est tout ce que je vous ai jamais demandé, et vous êtes encore là. Mais savez-vous que chaque jour accumule un péril de mort, non seulement sur votre tête, mais sur les nôtres? Un bruit court dans la montagne, on soupçonne que vous m'aimez, et les gens ne peuvent pas le supporter. » Je vis qu'elle était déjà informée du danger qu'elle courait, et je m'en réjouis. « Oh là là, je dis, je suis prêt à partir aujourd'hui, à cette heure même, mais pas seul. » Elle fit un pas de côté, s'agenouilla pour prier devant le crucifix, et je demeurai tour à tour à la regarder et à contempler l'objet de son adoration. Mes yeux allaient du visage vivant de la pénitente à la figure sinistre et barbouillée, aux plaies peintes et aux côtes saillantes de l'idole. Le silence n'était interrompu que par les cris plaintifs de quelques grands oiseaux qui volaient en cercle comme surpris ou alarmés au sommet des collines. À ce moment, Olalla se releva, se tourna vers moi, écarta son voile et, toujours appuyé d'une main au bois de crucifix, me regarda pâle et navré. J'ai ma main sur le crucifix, dit-elle. Le père dit que vous n'êtes pas chrétien, mais suivez un instant mon regard et contemplez le visage de l'homme des douleurs. Nous sommes tous pareils à lui. Les héritiers du péché. Nous avons tous à supporter et à expier un passé qui ne fut pas le nôtre. En nous tous, oui, même en moi, il y a une étincelle du divin. Aimez-le. Nous devons souffrir pendant un temps jusqu'à ce que demain revienne apporter la paix. Laissez-moi passer seul mon chemin. C'est ainsi que je serai le moins solitaire, comptant pour mon ami celui qui est l'ami de tous ceux qui souffrent. C'est ainsi que je serai la plus heureuse, ayant dit adieu au bonheur terrestre et acceptant volontiers la souffrance pour mon lot. Je considérais la face du crucifix, et bien que je n'aime pas les idoles et que je méprise cet art de grimaçante imitation, dont j'avais là un exemple grossier, je perçus la signification du simulacre. La face me regardait d'en haut avec une contracture de mortelle angoisse. Mais les raies de gloire qui l'environnaient me rappelaient que le sacrifice était volontaire. Il était là, dominant le roc, tel qu'il est encore planté au bord de tant de routes, offrant en vain aux passants l'emblème de tristes et nobles vérités. Que le plaisir n'est pas une fin, mais un accident. Que la douleur est le choix des magnanimes. Qu'il vaut mieux souffrir toute chose et bien faire. Je m'éloignai sans rien dire et descendis la montagne. Et lorsque je regardai en arrière pour la dernière fois, avant de pénétrer dans la forêt, je vis Olalla toujours appuyé sur le crucifix.